cette conférence à destination d'un large public. Hein, d'un large public, elle n'est pas du tout destinée aux spécialistes. Et son but est modeste. Il est d'abord d'inscrire dans cette semaine cannaise de la mémoire à la philosophie, hein, ce qui n'est pas rien, et plus au-delà, son but est d'interroger le lien entre la conscience de soi et la mémoire, et sur la possibilité de fonder le sentiment de notre existence personnelle sur la mémoire. Bon. Chacun s'entend ou sachant d'emblée qu'un homme qui serait privé de mémoire, un homme qui serait frappé d'amnésie, eh bien nécessairement perdrait le sentiment qu'il a de lui-même, perdrait le sentiment de son identité personnelle. Et pourtant, rien, me semble-t-il, n'est moins facile que de penser ce lien entre l'identité personnelle et la mémoire, lien qui a été établi réellement dans l'histoire de la philosophie, vous le savez peut-être, à l'époque moderne, par un philosophe empiriste qui s'appelle John Locke, 1632-1704. C'est Locke, qui est donc un empiriste, qui lie le premier, les deux notions, de manière aussi serrée, dans le fameux chapitre 27 de la deuxième partie de l'essai sur l'entendement humain, qui s'intitule « Identité et différence »,« Identity and diversity ». Et dans lequel chapitre le philosophe, donc Locke, définit la notion d'identité par rapport au temps. Hein, sa question est, qu'est-ce qui fait l'identité diachronique d'un être ? La réponse à cette question diffère selon qu'on a affaire à un objet matériel, à un organisme vivant, ou encore à un être humain, ou enfin à une personne. L'identité, dit Locke, signifie la mêmeté, un terme un peu étonnant dans notre langue, sameness, dit l'anglais. Je change, et pourtant je suis le même en des temps différents. Comment donc définir cette identité ? S'agissant du vivant, s'agissant du principe d'identité pour le vivant, Locke commence par poser que cette identité ne dépend pas de la masse corpusculaire de ce corps, que la variation des parties du vivant, même si cette variation est grande, ne change pas fondamentalement l'identité du vivant. Par exemple, dit-il, c'est son exemple, le chêne que l'on taille et qui pousse est le même. Bref, un corps vivant se définit, nous dit-il, un être vivant, par une organisation semblable. C'est le concept d'organisation qui sert à l'identité du vivant, qui n'est pas donc, contrairement au corps matériel, une simple agrégation, si vous voulez, de corpuscules. Je cite Locke, « S'agissant de l'homme, c'est tout simplement la participation ininterrompue à la même vie, entretenue par un flux permanent de corpuscules matériels, entrant à tour de rôle dans une unité vivante avec le même corps organisé. » Unité vivante avec le même corps organisé. Voilà la définition de l'identité du vivant. Alors, une première objection vient à l'esprit, un homme n'est pas un simple vivant. Mais précisément, Locke refuse de définir l'identité humaine par l'identité de l'âme. Si on ne recourt donc pas au corps vivant, deux hommes pourraient être identiques. En d'autres termes, et la suite de mon exposé va l'éclairer, je pense, un perroquet, c'est l'exemple de Locke, qui parlerait, qui penserait, ne serait pas pour autant un homme, puisqu'il lui manquerait précisément cette organisation-là de ses parties. Donc la question de Locke dans ce chapitre est très simple et très difficile en même temps. Au fond, de quoi parle-t-on quand on parle d'identité ? Qu'est-ce qu'on demande quand on interroge l'identité d'un être ? Prenons l'exemple de Socrate. Si je demande « Socrate est-il identique à Socrate ?» Au fond, qu'est-ce que je demande quand je pose cette question ? Je peux vouloir dire « s'agit-il du même homme ?» ou bien « s'agit-il du même corps ?» ou enfin « s'agit-il de la même personne ?» Donc la première affirmation de Locke, c'est qu'il faut distinguer trois sens, d'accord, du mot « identité » selon la signification précisément de l'idée attachée au mot, selon que j'ai affaire à une personne, à un homme ou encore à l'âme. Je cite Locke, 2.27.7, « c'est donc une chose » d'être la même substance, une autre d'être le même homme, une troisième d'être la même personne, si personne, homme et substance sont trois mots pour trois idées différentes. Alors, je voudrais partir de cette tripartition homme, personne, substance, ou en tout cas de la bipartition homme-conscience, homme-personne, pardon, enfin, c'est en l'occurrence homme-conscience, et laisser de côté pour le moment, parce que ça ne nous intéresse pas en tant que tel, le critère de l'identité d'un corps matériel. Il est clair que dans ce texte, qui est encore une fois le premier du genre hein, à l'époque moderne, Locke développe une thèse qu'on peut dire non-substantialiste. Hein. C'est-à-dire que ce qu'il récuse, c'est la définition cartésienne de l'âme comme substance immatérielle, non pas qu'il affirme qu'il n'y ait pas d'âme, hein, non pas qu'il affirmerait qu'il n'y ait pas de substance qui serait l'âme, mais parce qu'il démontre que l'identité personnelle n'est pas fondée sur l'identité de l'âme. Bref, qu'il n'y a pas d'identité substantielle, ou en tout cas nous ne pouvons pas rien en dire, mais bien que la personne est fondée sur l'identité de conscience. D'accord ? Donc la conscience et l'âme, ce n'est pas la même chose. Pour le dire autrement, aux yeux de Locke, l'homme est un corps qui ne cesse de changer tout au long de sa vie, et tandis que l'organisation biologique est rattachée par Locke à la notion d'homme, la conscience de soi, elle, est rattachée à la notion de personne. S'agissant de la substance immatérielle, elle a chez Locke, pour Locke, une existence tout à fait problématique. Donc la question que je voudrais poser avec Locke, c'est la suivante. Quelle identité attribuons-nous à la personne, sachant que poser cette question, c'est au fond se demander quelle identité une personne s'attribue à elle-même. Alors Locke choisit à dessein la notion de personne qu'il dit inséparable de la conscience d'être le même. C'est ce que Locke appelle consciousness, hein, non pas conscience, mais consciousness, celle, dit Locke, qui accompagne toute perception et qui accompagne les expériences passées. Qu'est-ce en effet qu'une personne ? Je vous donne la définition qu'en donne précisément Locke, hein, définition lockéenne donc de la personne. C'est un être pensant et intelligent, capable de raison et de réflexion, et qui peut se considérer soi-même comme le même, comme une même chose, qui pense en différents temps et en différents lieux. Il en découle, je cite toujours Locke, qu'aussi loin que cette conscience peut s'étendre sur les actions et les pensées déjà passées, aussi loin s'étend l'identité de cette personne. Le soi est présentement le même qu'il était alors, et cette action passée a été faite par le même soi que celui qui se la remet à présent dans l'esprit. J'aurai l'occasion de revenir sur cette longue définition, je vous l'accorde, de la notion de personne. Ce qui découle d'abord de cette définition, c'est que le critère de l'identité personnelle, qui donc, vous l'avez compris, n'est pas l'identité humaine et n'est pas non plus l'identité de l'âme. Ce critère est bien, semble-t-il, un critère mémoriel. En d'autres termes, deux segments temporels appartiennent à la même personne, deux segments A et B, si et seulement si le segment temporel B a souvenir en première personne, du segment temporel A. Comme je le disais à l'instant, tandis que l'homme est rattaché, la notion d'homme est rattachée par Locke à l'organisation biologique, la personne est rattachée à la conscience qu'elle a d'elle-même. Bon. Bref, l'identité humaine, j'insiste, n'est pas définie par l'identité de l'âme, et il faut tirer évidemment toutes les conséquences de cette affirmation. La première étant qu'on pourrait imaginer, selon Locke, que le même esprit occupe différents corps. On peut par conséquent être la même personne et non pas le même homme, et réciproquement. Hein, c'est-à-dire qu'un martien, par exemple, pour Locke, peut être une personne. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il y a une réflexivité pour Locke de la conscience qui s'étend par la mémoire aux actions et aux pensées passées. En d'autres termes, la personne, la notion de personne, la personne elle-même, est fondée sur la mémoire, sur ce qu'on peut appeler la continuité de la mémoire. Il ne s'agit pas de savoir, quand je demande s'il y a eh bien, la même personne, de savoir si j'ai affaire à la même substance, il s'agit de savoir en quoi consiste son identité de conscience. Bon. Alors, ce qui est remarquable dans ce paragraphe, qui est tout à fait important dans l'histoire, non seulement de la notion, mais de la philosophie tout court, c'est que Locke développe toutes les conséquences de cette affirmation, non ? Quitte à développer tous les paradoxes de cette définition de l'identité personnelle. J'en ai déjà dit quelques-uns. Une même personne peut donc être rattachée, dans son hypothèse, à des substances différentes. Et la personne peut subsister, d'accord, à travers cette variation substantielle, dès lors que sa conscience est la même. Hein. Donc, en dissociant identité personnelle et identité substantielle, Locke admet que différentes personnes puissent être attachées à la même substance si la conscience d'être le même vient à changer. On est d'accord ? Alors, il en découle que si la même conscience peut être transportée d'une substance à une autre, elles peuvent ne constituer qu'une seule personne. Donc l'identité personnelle est préservée toutes les fois dès que la même conscience est préservée. En d'autres termes, l'identité personnelle ne s'étend pas plus loin que le sentiment que nous avons de notre propre existence. Vous connaissez peut-être l'exemple fameux qui est celui de Locke dans le paragraphe 15, qui est l'exemple du prince et du savetier. L'exemple est le suivant. Supposons que l'âme d'un prince, consciente de sa vie passée de prince, entre dans le corps d'un savetier. Dans l'hypothèse lockéenne, d'accord ? Dans cette hypothèse, eh bien, il s'agirait toujours de la même conscience que le prince. Le prince ne cesserait donc pas d'être prince et il ne serait responsable, on va y venir, que des actes du prince. Oui, si la conscience du prince entre dans un corps qui est un corps de savetier, sa conscience reste une conscience de prince. À cette seule différence près qu'aux yeux de tout le monde, il est un savetier. Sauf à ses propres yeux, d'accord ? Sauf, évidemment, à sa propre conscience. Donc, le prince dans le corps d'un savetier devient-il le prince qu'il se souvient avoir été, ou bien est-il le savetier que les autres peuvent observer ? À cette question, Locke tranche, évidemment, pour la première réponse. On peut pourtant se demander, donc voyez, premier paradoxe, on peut pourtant se demander, à supposer que cette hypothèse, cette fiction soit réalisable, et elle n'est certainement pas souhaitable, mais si précisément, Locke a tout envisagé, en d'autres termes, est-ce que la mémoire du prince ne serait pas affectée dans une telle hypothèse par le corps du savetier ? Oui ? En d'autres termes, est-ce qu'on peut dissocier, c'est un des reproches que fera Paul Ricoeur à John Locke, dans Soi-même comme un autre, est-ce qu'on peut ainsi dissocier l'identité psychique et l'identité corporelle ? Bon, quoi qu'il en soit, un prince dans un corps de savetier est la même personne, définie donc au paragraphe 9 comme cet être pensant et intelligent, doué de raison et de réflexion, je répète cette belle définition, et qui peut se considérer soi-même comme soi-même, une même chose pensante en différents temps et lieux. Alors, Locke souligne, ce que j'ai déjà un petit peu amorcé, que le terme de personne est un terme judiciaire, hein, est un terme du langage judiciaire qui, je le cite encore, assigne la propriété des actes et de leur valeur et comme tel, n'appartient qu'à des agents doués d'intelligence. Hein. En d'autres termes, une personne est un être qu'on peut louer ou blâmer pour ses actes. Une personne est un être responsable. Bon, et pour que nous soyons dits responsables, il faut par définition que notre existence personnelle ne soit pas scindée en état discontinu. Par exemple, c'est Locke qui le dit, celui qui a commis un crime et celui qui en est accusé doit être le même. Donc dans cette hypothèse, c'est toujours Locke qui donne cet exemple, si Socrate et le maire de Queenborough étant une province, une banlieue de Londres, en conviennent, si tous les deux en conviennent, C'est-à-dire, s'ils ont la même identité de conscience, ils sont la même personne. Hein? Si Socrate et le maire de Queenborough en conviennent, s'ils ont la même identité de conscience, ils sont la même personne, tandis que le même Socrate, éveillé et endormi, ne partage pas la même conscience. On ne peut donc pas punir Socrate éveillé pour ce que pense Socrate endormi, dont par définition, Socrate éveillé n'est pas conscient, pas plus qu'on ne pourrait punir un frère jumeau pour ce qu'a fait son frère. Alors vous voyez, il y a une série de paradoxes qui découlent de cette dissociation que fait Locke entre l'identité substantielle, l'identité personnelle, en dissociant effectivement les deux. Non seulement Locke refuse la liaison nécessaire entre la conscience et la notion de substance posée par Descartes, mais il affirme, comme je viens de le dire, ou il admet, qu'une même personne peut être attachée à des substances différentes, qu'elle peut persister à travers des variations importantes dès lors, encore une fois, que sa conscience reste la même. Il semble donc qu'il faille dans cette hypothèse, dans cette analyse, qu'il faille accepter qu'il y ait des intermittences de la personne, oui, correspondant aux intermittences de la conscience. De même qu'il faille accepter l'existence de faux souvenirs. Locke accepte, j'y reviendrai comme conséquence de sa thèse, la théorie, si vous voulez, du dédoublement de la personnalité, hein, un peu à la manière de Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, c'est-à-dire que deux personnes, hein, peuvent vivre dans un même corps, comme dit Locke, comme l'homme du jour et l'homme de la nuit, Socrate endormi, Socrate éveillé, sans qu'ils aient conscience des sentiments et pensées de l'autre. De même qu'il faut accepter et du coup penser les cas de paramnésie, hein, le sentiment, si vous voulez, de déjà-vu, comme lorsque le Lord Maire de Queenborough donc, se souvient d'avoir été Socrate, ou que quelqu'un prétend avoir commis un meurtre qu'il n'a pas commis. Voilà le premier temps. Alors mon deuxième temps, c'est celui des objections qui ont été formulées en compte de la thèse de Locke. La première objection qui a été formulée, c'est celle de la circularité. Au fond, Locke nous dirait « le même doit être le même ». Le même est défini par le même. Pourquoi ? Parce que Locke, au fond, nous dirait « pour être moi, il suffit que je me souvienne d'être moi hein ». Mais pour dire précisément que « je me rappelle », encore faut-il qu'il y ait un « je ». Alors cette objection, d'accord, de la circularité, elle a été faite du vivant de Locke, elle a été faite par un nommé Butler, 1692-1752, hein, qui a dénoncé donc la thèse, si vous voulez, le caractère circulaire de la thèse de la continuité de la mémoire. Butler qui dit « la conscience de l'identité personnelle présuppose et par conséquent ne peut pas constituer l'identité personnelle. Ce n'est pas parce que j'ai conscience de mes actions passées que je suis identique à moi-même, c'est la thèse Lockeienne, d'accord ? Mais c'est au contraire parce que je suis identique à moi-même, à travers le temps, que je peux éventuellement m'attribuer à moi-même certaines expériences passées. Alors cette objection, elle a été reprise ensuite par Thomas Reed, 1710-1796, pour lequel, si vous voulez, la mémoire est un indice, est un symptôme de l'identité personnelle, mais n'est pas un critère à proprement parler. Se souvenir que j'ai accompli une action, c'est, dit Reed, se souvenir d'une personne identique à moi. Et enfin, et d'autre part, et c'est la grande objection, mais vous allez voir que Locke y apparaît, nous ne nous souvenons pas de tout. Notre existence consciente ne coïncide pas avec la totalité, si vous voulez, de notre existence passée, bref, avec notre mémoire. Alors, cette affirmation, elle est résumée par ce qu'on appelle le paradoxe du brave officier, que je ne résiste pas au plaisir de vous livrer. Le paradoxe est le suivant. Un général, militaire donc, se souvient d'avoir accompli une action d'éclat quand il était officier. Mais il ne se souvient pas, ce général, brave général donc, il ne se souvient pas d'avoir été fouetté étant enfant, alors qu'il s'en souvenait quand il était officier. Oui, vous me suivez ? il serait vrai, dans l'hypothèse lockienne, qu'à la fois le général est la même personne que l'officier est la même personne que l'enfant, mais que le général n'est pas la même personne que l'enfant. Ce qui est absurde, évidemment. Hein? Celui qui a été fouetté pour avoir volé des pommes dans le verger, et le général décoré ne serait pas la même personne parce que précisément il n'en a pas le souvenir alors même qu'il en avait conscience dans le moment présent. Donc il serait et il ne serait pas la même personne. Paradoxe de l'officier. Alors on peut multiplier les exemples, je ne vais pas le faire, mais enfin je vous en donne quand même un ou deux autres. Notamment l'argument moderne avancé par Bernard Williams dans Problems of the Self, ça date de 1973, qui est le suivant. Si un homme, un problème donc du moi, hein, self, si un homme affirme sincèrement se souvenir avoir fait et pensé tout ce qu'un autre homme ayant vécu avant lui a fait et pensé, comme dans l'exemple, soit dit entre parenthèses, de Locke lui-même. Hein, que Locke lui-même donne au paragraphe 16 d'un homme observant les crues de la Tamise à Londres et se souvenant avoir vu le déluge avec les yeux de Noé. Bon, on devrait reconnaître donc, d'après le critère psychologique qui est le critère lockéen, que c'est la conscience mémorielle qui fait la personne et donc que ces deux hommes ne font qu'une seule personne. Comment on ne peut pas exclure qu'un autre homme, par exemple le frère jumeau du premier, ait lui aussi les mêmes souvenirs, il faudrait affirmer qu'il est lui aussi la même personne que Noé, ce qui devrait conduire à dire que les deux frères sont la même personne, alors que chacun a clairement sa propre vie de conscience. Bon, dernier exemple, dernier paradoxe ou dernière aporie, c'est celle dont parle, hein, vous trouverez le développement, vous pouvez trouver tout le développement de ces apories, notamment dans l'ouvrage de Paul Ricoeur, qui leur consacre dans Soi-même comme un autre un certain nombre de lignes. C'est cette aporie dégagée par Parfit cette fois. La question, si vous voulez, de l'identité, après Locke, a donné lieu à un nombre assez considérable et privilégié d'apories. Alors l'exemple de Parfit, c'est l'exemple de la télétransportation. Voilà l'exemple. Si on fait une copie exacte de mon cerveau, qu'on la transmet par radio à un poste récepteur qui serait placé sur une autre planète, où une machine reconstituerait une réplique exacte de moi-même. Supposons, ça c'est le premier cas, que le cerveau, mon cerveau et mon corps sont détruits au cours du voyage spatial. La question est la suivante. Ai-je ou non survécu dans ma réplique ? Ai-je survécu dans ma réplique ou bien suis-je mort ? Bon, alors c'est un cas, nous dit Parfit, absolument indécidable. Dans le deuxième cas, mon cerveau et mon corps ne sont pas détruits, mais mon cœur est abîmé. Je rencontre ma réplique sur Mars, elle sait que je vais mourir avant elle. La question est la suivante, vais-je mourir ou bien survivre dans ma réplique ? Alors, j'arrête là pour les paradoxes et les apories. Que si on revient à Locke, sa thèse est la suivante. L'identité d'une personne s'étend, hein, c'est ce que dit le paragraphe 9, aussi loin que cette conscience peut atteindre rétrospectivement toute action ou pensée passée. C'est le même soi maintenant qu'alors. Et le soi qui a exécuté cette action est le même, le soi qui a exécuté l'action est le même que celui qui à présent réfléchit sur elle. Donc voyez le rôle évidemment très important que Locke délègue, hein, en quelque sorte à la mémoire s'agissant de la constitution de l'identité personnelle. On peut se demander, et je fais allusion ici à Leibniz, critique de Locke, si la conscience seule constitue la personne morale. Juste un mot sur Leibniz. Hein, pour Leibniz, la conscience n'est pas le seul critère de l'identité morale d'un homme. Parce que Leibniz prend un exemple important, me semble-t-il, pour la suite de ce que j'ai à vous dire, à savoir le témoignage concordant d'autrui. Lorsque ma conscience du passé est défaillante, qu'elle soit partiellement atteinte, quand je suis dans un coma, par exemple, ou qu'elle soit totale, comme dans le cas d'une amnésie, cela ne suffit pas, nous dit Leibniz, à remettre en cause l'identité de la personne. Pourquoi ? Parce que le témoignage des autres, dit-il, vient remplir ou peut venir remplir le vide hein, de ma réminiscence. On peut me dire, m'enseigner, en quelque sorte me réapprendre qui je suis. Hein, c'est le premier argument, Leibnizien. Le deuxième argument, c'est que il faut distinguer, selon Leibniz, et j'y fais allusion encore une fois par rapport à ce qui va suivre, les concepts de perception et d'aperception. Alors, le concept d'aperception est un synonyme, au fond, de conscience. Hein, conscience ou aperception de soi. Pour Leibniz, la personne morale est un continuum de petites perceptions. Et donc, qu'ils en aient ou non conscience, Socrate nourrisson et Socrate philosophe forment une même personne. Parce qu'il y a une continuité sans faille de petites perceptions. Et donc, une interruption de la perception n'implique pas que l'individu cesserait d'être identique à lui-même, parce qu'il n'y a pas de discontinuité précisément dans le flux des perceptions. Alors, j'en arrête là et je passe, si vous voulez, à mon troisième moment. S'il y a un mérite très grand de l'analyse lockéenne, c'est évidemment dans ceci que l'analyse ici opère en quelque sorte un divorce entre un critère qui serait purement psychologique, d'accord, et qui est purement psychologique de l'identité de la personne, et le critère organique de l'identité de l'homme, d'accord. L'identité d'un homme, c'est, le critère est organique, l'identité de la personne, le critère est psychologique. C'est donc bien la mémoire qui, chez Locke, alors c'est ce que, mais peu importe, c'est ce que Stéphane Chauvier, ancien professeur dans cette université, appelle une conception cognitionniste de la personne, hein, par opposition à des conceptions qu'on peut appeler ontologiques, hein, ou hypostatiques. Bon, peu importe. Donc, c'est la mémoire qui, ici, vient instruire, si vous voulez, la relation dans le temps qui lie et qui identifie l'un à l'autre le moi présent et le moi passé. Vous voyez que lire Locke comme je viens de le faire, c'est accorder un très grand rôle à la mémoire. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire dans la constitution de l'identité de la personne. Or, comment répondre à l'objection fondamentale qu'on posait tout à l'heure, à savoir que notre mémoire est fragile, que notre pensée est fragile, bref, qu'il y a des intermittences, hein, et une fragilité consubstantielle, si je puis dire, de la mémoire. Alors, j'ai lu récemment, et je voudrais vous en faire part, un article extrêmement éclairant, battant en brèche, au fond, cette interprétation un peu facile de Locke qui consiste à dire, hein, que sans la mémoire, donc, nous n'aurions pas, d'accord, l'identité de notre propre personne, puisque cette identité suppose une conscience qui s'étend précisément aux actions et aux pensées passées. Selon Philippe Hamou, pour ne pas le nommer, une telle interprétation, une telle analyse repose en fait sur un malentendu qui est peut-être éclairant pour la suite de ce que je vais vous dire. Si l'identité personnelle est effectivement fondée sur la continuité psychologique, d'accord, de la conscience, celle-ci, à ses yeux, ne dépend pas de l'autorité subjective de la conscience actuelle, existe donc indépendamment de ce que la mémoire peut en dire ici et maintenant. Je m'explique. Locke lui-même reconnaît, il le reconnaît au paragraphe 10, que si la pensée est toujours accompagnée de conscience, hein, penser, c'est avoir conscience que l'on pense. En ce sens, Locke est cartésien. Hein, une pensée qui ne serait pas consciente d'elle-même n'est pas à proprement parler une pensée. Bon, si donc penser, c'est par définition avoir conscience de cette pensée, la pensée accompagnée de conscience a pourtant des intermittences. Hein. Et la première qui frappe aux yeux, c'est le sommeil, évidemment, mais aussi les cas de syncope, etc. Bref, Locke le dit lui-même, nous n'avons jamais la représentation de notre propre vie comme un tout qui serait un tout continu. Je cite Locke, paragraphe 10. Mais ce qui semble faire de la peine en ce point, et que cette conscience est toujours interrompue par l'oubli, n'y ayant aucun moment dans notre vie auquel tout l'enchaînement des actions que nous avons jamais faites soit présent à notre esprit. C'est que ceux qui ont le plus de mémoire perdent de vue une partie de leurs actions pendant qu'ils considèrent l'autre. C'est que quelquefois, ou plutôt la plus grande partie de notre vie, au lieu de réfléchir sur notre soi passé, nous sommes occupés de nos pensées présentes. Et qu'enfin, dans un profond sommeil, nous n'avons absolument aucune pensée, ou du moins qui soit accompagnée de cette conscience que nous avons en veillant. Donc Locke est très conscient, c'est le cas de le dire, que la mémoire à elle seule ne peut pas, si vous voulez, raccommoder les discontinuités de notre vie consciente, hein, et que ces discontinuités, il ne s'agit évidemment pas de les nier. Et en témoigne notamment la vieillesse et la possibilité de l'oubli radical d'une partie de notre vie consciente. Alors comment répondre à cette objection s'il est vrai que Locke lui-même l'a prise en considération ? On est d'accord ? En fait, souligne Philippe Hamou, la même conscience se maintient par-delà les plages de sommeil et d'oubli. Alors que les intermittences, si vous voulez, de la pensée suggéreraient plutôt qu'il n'y ait pas d'existence continuée, aux yeux de Locke, de la même substance pensante. En d'autres termes, la clé de sa lecture, elle tient dans cette affirmation que s'il y a des intermittences de la conscience, ces intermittences ne sont pas des intermittences pour la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que, s'agissant du sommeil, oui, s'agissant de l'oubli, s'agissant de la distraction, voilà des états, si vous voulez, qui ne sont pas des expériences au sens propre. Ce ne sont pas des faits de conscience. En d'autres termes, il n'y a pas de distance entre le moment où j'ai cessé de penser, où je me suis endormi, et celui où je me suis réveillé. La conscience, souligne Hamou, hein, je suis ici l'interprétation de Philippe Hamou, c'est un train d'idées, hein, train of ideas, un train d'idées en constante succession. Et c'est cela qui importe dans l'idée même de conscience, c'est-à-dire l'idée précisément d'une suite continuée, hein, comme, si vous voulez, comme une suite d'idées qui se rattacheraient les unes aux autres, hein, comme dans un train, peu importe, au fond, la façon dont mécaniquement le train est agencé. Hein, le train of ideas, c'est la condition psychologique, si vous voulez, structurelle de l'existence de la pensée consciente. Et donc, il n'y a pas d'idée sans rétention de l'idée. Hein, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'idée consciente où elle n'est pas. Bref, il faut penser la conscience à l'intérieur de cette chaîne rétentionnelle, si vous voulez, à la manière dont ensuite les phénoménologues vont définir la dite conscience. Et donc, dans cette hypothèse, le critère des intermittences de la pensée n'est pas une objection véritable à la thèse de Locke. Alors, je vais essayer de le dire peut-être encore plus clairement. En disant que notre identité personnelle repose sur une identité de conscience, Locke ne dit pas, selon cette lecture, que les actes mémoriels singuliers tisseraient notre identité et seraient donc dépendantes de la conscience que nous en prenons. Ce qui identifie la personne, c'est le train des idées, c'est-à-dire l'enchaînement ininterrompu des pensées conscientes de la vie mentale d'une même personne. Hein, c'est ça le sens de la conscience continuée. Same consciousness, dit l'anglais, hein, le même train de pensée consciente. Donc, par exemple, s'agissant de Socrate et du maire de Queenborough, hein, il ne faut pas penser, dit Hamou, un acte qui serait un acte individuel. Hein, par certaines pensées, nous avons le sentiment, la conviction que nous sommes, mais ce n'est pas cela qui nous relie en quelque sorte à nous-mêmes, mais bien la connexion des idées. Bref, ce ne serait pas, contrairement à ce qu'on dit habituellement de Locke, ce ne serait pas la mémoire qui ferait l'identité personnelle, mais la mémoire, en ce sens, présupposerait l'identité personnelle. Le rôle de la mémoire, ou le seul élément de la mémoire qui serait requis pour constituer la conscience, c'est précisément le mécanisme d'accroche, hein, comme le dit Hamou, des idées qui sont les idées immédiatement successives. En d'autres termes, quand Locke évoque la mémoire, au fond, il évoque deux choses. Il évoque, un, la possibilité d'éveiller des perceptions passées, et deux, la perception qui est une perception additionnelle que ces perceptions-là ont été nôtres. Locke a une formule qui est la suivante, que je vous livre, enfin je vous livre ce paragraphe. Dire qu'il y a des idées, dit Locke, en réserve dans la mémoire, n'emporte dans le fond autre chose, si ce n'est que l'âme a en plusieurs rencontres la puissance de réveiller les perceptions qu'elle a déjà eues, avec un sentiment qui, en ce temps-là, la convainc qu'elle a eu auparavant ces sortes de perceptions. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que nos idées sont dans la mémoire, quoiqu'à proprement parler, elles ne soient nulle part. C'est-à-dire, ce sont des existences qui sont passagères, qui sont vouées à disparaître, liées probablement à l'existence de traces cérébrales, mais au fond, destinées à disparaître. Et donc, la plupart de nos idées passées n'ont plus d'écho conscient direct. Et donc, la seule preuve, voilà le retournement ou la nuance, je ne sais pas si vous me suivez, mais la seule preuve qu'elles sont nôtres, c'est le sentiment. En d'autres termes, l'idée vécue comme mémorielle suppose l'identité précisément à soi. Et c'est d'ailleurs pourquoi Locke évoque, pour appuyer sa propre analyse, la possibilité, comme je disais tout à l'heure, de la paramnésie, du faux souvenir, par lequel je m'attribue au fond un acte que je n'ai pas commis. En d'autres termes, le souvenir étant un fait de conscience présent, ne porte pas la garantie absolue que mes idées remémorées appartiennent au même train de conscience, train of consciousness, que celui qui aujourd'hui précisément me conduit à nous les remémorer. La mémoire, revenons sur son rôle avant d'entamer le dernier moment de notre intervention. La mémoire est bien ici, a bien un rôle décisif, puisqu'elle est le critère subjectif de l'identité personnelle. Je vous lis par exemple le paragraphe 10. Locke parle « Tant qu'un être intelligent peut répéter en soi-même l'idée d'une action passée avec la même conscience qu'il en avait eue premièrement, et avec la même qu'il a d'une action présente, jusque-là, il est le même soi. » The same self. En disant cela, Locke ne dit pas que l'identité personnelle repose sur la mémoire, mais simplement, si je puis dire, que la mémoire est ce moyen par lequel une conscience se témoigne à elle-même d'une identité transtemporelle, par-delà, si vous voulez, le temps ou l'écoulement temporel. Donc, au-delà, si vous voulez, de ce dont je puis me souvenir, mon identité personnelle n'est pas garantie en ce sens par moi. Alors, Locke insiste beaucoup, et ce point va me servir de transition à mon dernier moment, Locke insiste beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de rationalité sans mémoire. La mémoire, dit-il, est nécessaire à une créature raisonnable. Elle est d'une si grande importance que si elle vient à manquer, toutes nos autres facultés sont pour la plupart inutiles. Et je voudrais vous citer ce passage, un peu long, mais me semble-t-il important. Si l'homme ne se souvient pas de ses propres pensées, si elle ne peut pas les mettre en réserve, ni les rappeler pour les employer dans l'occasion, si elle n'a pas le pouvoir de réfléchir sur le passé et de se servir des expériences, des raisonnements et des réflexions qu'elle a faites auparavant, à quoi lui sert de penser ? Ceux qui réduisent l'âme à penser de cette manière n'en font pas un être beaucoup plus excellent que ceux qui ne la regardent que comme un assemblage des parties les plus subtiles de la matière, gens qu'ils condamnent eux-mêmes avec tant de hauteur. Car enfin, les caractères tracés sur la poussière, que le premier souffle de vent efface, ou bien des impressions faites sur un amas d'atomes ou d'esprits animaux, sont aussi utiles et rendent le sujet aussi excellent que les pensées de l'âme, qui s'évanouissent à mesure qu'elle pense, ses pensées n'étant pas plutôt hors de sa vue, qu'elle se dissipe pour jamais, sans laisser aucun souvenir après elle. Locke dit que, sans la mémoire, la pensée ne vaudrait pas mieux que la matière. Il renvoie, si vous voulez, ici dos à dos, le discours spiritualiste et le discours matérialiste. Un fœtus, si vous voulez, n'ayant pas de traces mémorielles, n'est pas, aux yeux de Locke, encore une personne. Et non seulement cela, mais un vieillard qui n'aurait plus aucun souvenir est, je cite Locke, n'est pas loin d'une huître. Paragraphe 15, je cite Locke là encore. Prenez un de ces vieillards décrépits à qui l'âge a fait perdre le souvenir de tout ce qu'il a jamais su. Il ne lui reste plus dans l'esprit aucune des idées qu'il avait auparavant. L'âge lui a fermé presque tous les passages à de nouvelles sensations, en le privant entièrement de la vue de l'ouïe, de l'odorat, et en lui ôtant presque tout sentiment du goût. Ou si quelques-uns de ces passages sont à demi ouverts, les impressions qui s'y font ne sont presque point aperçues ou s'évanouissent en peu de temps. Cela posé, je laisse à penser, entre parenthèses, malgré tout ce qu'on publie, des principes innés. En quoi un tel homme est au-dessus de la condition d'une huître, par ses connaissances et par l'exercice de ses facultés intellectuelles, que si un homme avait passé 60 ans dans cet état, qu'il pourrait aussi bien faire que d'y passer 3 jours, je ne saurais dire quelle différence il y aurait eu à l'égard d'aucune perfection intellectuelle entre lui et les animaux du dernier ordre. Bon. Je voudrais maintenant évoquer, en guise, si vous voulez, de conclusion un peu longue quand même, un livre, en cette journée, puisqu'on célèbre, si j'ose dire, la maladie d'Alzheimer aujourd'hui, un très beau livre, qui est le livre que vous connaissez peut-être, de Michel Malherbe, qui s'intitule donc « Alzheimer, la vie, la mort, la reconnaissance ». Michel Malherbe est un professeur, enfin, il est à la retraite désormais, c'est un professeur spécialiste de l'empirisme anglo-saxon, traducteur de Locke, traducteur de Hume, entre autres, et grand analyste de l'empirisme en général. Bon. Et ce livre est le récit de la maladie de sa femme Annie et des visites qu'il lui a rendues pendant une dizaine d'années, dont les chapitres se ponctuent tous par le retour de la même phrase, qui est la suivante: « Demain, je rendrai de nouveau visite à Annie. » Annie, donc, est sa femme, qui est décédée cet été, et à laquelle je rends hommage aussi en rendant hommage à celui qui a écrit ce livre, comme un philosophe, parce qu'on ne se guérit pas de ce que l'on a été, mais qu'il écrit aussi, évidemment, comme un époux aimant et un époux souffrant, qui, pour reprendre ses termes, a dû tenir, c'est le terme qui est le sien, il a dû tenir plus de 10 ans et assister à ce qu'il nomme la dégénérescence de sa femme Annie. Alors, c'est un témoignage, mais c'est un objet philosophique à part entière que je vous recommande, et cela pour plusieurs raisons et qui vont nous permettre de revenir à ce qu'on disait pour commencer. En bon spécialiste de Hume, Michel Malherbe veut interroger non pas simplement ce qui reste de l'identité de sa femme, une fois la maladie déclarée, une fois les ravages accomplis, une fois la personne altérée, mais au-delà, interroger notre appartenance à ce qu'il nomme, après Hume, la nature humaine. Or, il commence par renvoyer dos à dos, je ne vais pas retracer évidemment toute la subtilité des analyses ici de Michel Malherbe, mais il renvoie dos à dos deux discours, le discours du naturaliste et le discours de ce qu'il nomme l'humaniste. Alors, le naturaliste, c'est celui qui nous explique que chacun de nous est un spécimen unique, certes, mais membre d'un groupe qui le dépasse. Et ce groupe, c'est ce qu'on appelle le genre humain. Dans un type de discours comme celui-là, par définition, l'individu singulier que je suis n'est pas pris en compte s'il est vrai qu'il est irréductible par définition, cet individu, à ce qui le rend commun aux autres. Bon, et de l'autre côté, que trouve-t-on? Eh bien, on trouve l'humaniste en général, celui donc qui met en avant la notion de sujet. Un certain nombre de philosophes, si vous voulez, sont ici directement visés. Et l'humaniste, au fond, lui aussi, s'il met en avant le sujet, son sujet ne vaut guère mieux, au fond, que le membre de l'espèce humaine propre au naturaliste. Pourquoi? Michel Malherbe a cette formule: le sujet, c'est toi, c'est moi, c'est lui, mais moi, c'est moi, moi, c'est moi. Bon, en d'autres termes, ni le discours naturaliste ni le discours humaniste, au fond, ne sont capables de saisir ce qui fait la spécificité de cette maladie et ce qui fait la spécificité de l'épreuve qu'elle constitue, en particulier pour celui qui y assiste sans pouvoir faire grand-chose. Et ce qui ressort de ce témoignage, Ce que nous dit Malherbe, c'est qu'au fond, il a fait l'expérience de ce qu'il nomme le mal radical. Hein, le mal radical ou l'injustice, hein, une longue dégénérescence, je le cite, amnésie périodique, sémantique, procédurale, désorientation, incontinence, confusion, délire, agnosie, anosognosie, hein, pas de prise de conscience de la maladie, obsession, aphasie, apraxie, aboulie, incapacité d'agir, apathie, dysesthésie et pour finir, léthargie et dénutrition. Bon, le tableau n'est évidemment pas rose et non seulement il n'est pas rose, mais ce livre est une critique implacable d'un certain nombre de consolations philosophiques et qui ne sont pas toujours d'ailleurs philosophiques. Il relève aussi d'un discours, je dirais, politiquement très incorrect, dont je voudrais vous donner juste un bref exemple. Page 23, c'est Michel Malherbe qui parle. Pourquoi vouloir savoir ? Pourquoi vouloir déterminer ce qu'est l'être humain quand il dégénère et ce qui reste alors en lui d'humanité ? Et l'on me presse de changer d'attitude. Entrez dans une démarche éthique. Prenez votre proche comme elle est. Acceptez-la pour ce qu'elle est. Accueillez-la comme l'étrangère qu'elle est devenue et accompagnez-la dans son déclin. Elle vous échappe. Acceptez qu'elle soit autre. Soyez un aidant. Alors ce vocabulaire, Michel Malherbe avoue ne pas comprendre ce qu'est être un aidant. Il avoue ne pas comprendre ce qu'est une telle fonction, sinon qu'elle se résume par un seul mot, tenir. Il faut tenir. Que Michel Malherbe raconte avec ses mots, évidemment, l'existence, encore une fois, enfin, la question abyssale qu'il pose et qu'il met en quelque sorte devant nos yeux, c'est celle d'une situation de non-rapport, hein, d'une impossibilité radicale, d'une intersubjectivité. Non seulement je ne le connais plus, l'autre, je ne le reconnais plus, hein, question de la reconnaissance, mais Alzheimer serait par excellence ce qui vient mettre la morale en échec. Hein, il a cette formule, qu'un homme soit perdu aux autres, soit, mais qu'il se perde lui-même, je ne connais pas de plus grand mal. Qu'est-ce que ce monde où un être ou un homme peut être une offense à lui-même ? Bon. Radical, donc, altération. Et à l'objection qu'on lui fait que l'histoire continue, puisque c'est toujours une histoire, Michel Malherbe dit, il a cette formule précisément qui fait écho, il le sait pertinemment, consacrant tout un chapitre à la question de l'identité personnelle, il a cette formule, le passé ne suffit pas à l'avenir quand manque le présent. Le passé ne suffit pas à l'avenir quand manque le présent. En d'autres termes, Annie, c'est elle. Et en même temps, ce n'est pas elle. Hein, le nœud de l'histoire, dit Michel Malherbe, c'est défait. Je le cite encore. Annie est là, devant moi. Elle a incontestablement une présence individuelle distincte. Mais je suis incertain de son identité, car la connaissant bien, et peut-être parce que je la connais bien, je ne la reconnais pas. C'est-à-dire, ma perception présente ne coïncide pas avec tout le savoir que j'ai d'elle. Et mon incertitude tient à ce que ses attitudes, ses comportements ne répondent pas à son identité précédemment constituée, ni ne se conforment à ce qu'on peut attendre d'un sujet conscient, libre et responsable. La maladie, désormais, fin de citation, hein, la maladie désormais s'impose et au fond interrompt une trajectoire qui était la trajectoire de sa propre histoire. Là encore, entrant dans l'analyse et en bon Humeien, alors je ne sais pas ce que vous savez de Hume, mais disons que Hume nie la réalité de la relation de causalité. Je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle ou spécialistes de la question, mais si vous voulez, si je peux interroger cette maladie en me disant, ben voilà, au fond, dans cette maladie, il y a une corrélation entre une série de phénomènes physiques, hein, en l'occurrence lésions du cortex, etc., et une série de phénomènes mentaux. Amnésie, dégradation des fonctions cognitives. Bon. Or, si vous êtes Humeien, je pourrais vous expliquer ce que c'est si vous insistez, vous ne pouvez pas concevoir de causalité réelle directe, d'accord, entre cette série de phénomènes qui sont des phénomènes physiques et cette série de phénomènes mentaux. En d'autres termes, l'amnésie, et ça me semble un passage extrêmement important du livre de Michel Malherbe, l'amnésie, qui définit Alzheimer, peut être décrite en termes mentaux. Mais vous voyez, elle n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le cerveau. Hein. peut toujours avoir deux discours. Et au fond, ces deux discours, on peut les renvoyer l'un à l'autre. Le premier discours, vous le connaissez, c'est un discours moniste qui consiste à opérer une réduction, d'accord ? Précisément, parler, comme au XVIIIe siècle, du moral au physique. Bon. Le dualisme, lui, par opposition à monisme, dit, bon, quoi qu'il arrive, il y a quand même quelque chose qui reste, hein, une part d'âme, etc. Bon. Mais que dit Malherbe ? Malherbe, lui, souligne que non seulement on peut décrire la maladie, et croyez-moi, il l'a vu de près, en termes mentaux, mais qu'elle se présente concrètement, phénoménalement, dans des phénomènes mentaux. Et donc, la question de Malherbe, si vous voulez, c'est la suivante. Quel statut donner au phénomène comme phénomène, au mental, si vous voulez, en tant que mental ? Si je dis, c'est Malherbe qui parle, hein, si je dis l'amnésie a pour cause des liaisons cérébrales, je parle d'une réalité qui n'est pas une réalité directement observable. Or, précisément, la maladie d'Alzheimer, comme phénomène, est investie, Malherbe insiste beaucoup là-dessus, par une réalité physique. Donc la question de Malherbe est la suivante. Comment reconnaît-on l'autre comme un être humain dans cette dégénérescence même ? C'est-à-dire, y a-t-il une causalité qui serait une causalité proprement mentale, distincte de la causalité physique ? Si je dis la personne est à la fois un corps et un esprit, au fond, j'utilise des termes qui ne font jamais que répéter la question, mais qui ne la, évidemment, qui ne la résolvent pas. Je prends un exemple pour être peut-être plus clair. Non seulement, comme il le dit, l'anxiété et la désorientation qui caractérise les patients Alzheimer, non seulement l'anxiété, la désorientation accompagnent ces lésions, etc., mais elles induisent des comportements psychologiques, des comportements psychologiques qui sont des comportements caractérisés. Et donc, sa question est celle de savoir en quoi consiste, si vous voulez, l'irréductible ou l'irréductibilité dans l'anxiété, l'irréductibilité à ce qui se passe dans le cerveau. Comment rendre raison des pouvoirs mentaux ? Bon. Annie, donc, je reviens à ce qu'ils ont dit. La conclusion terrible de ce témoignage, c'est que la maladie d'Alzheimer est une corruption de la personne humaine elle-même. Être une personne, c'est se savoir une personne. Or, précisément, dans l'Alzheimer, selon Michel Malherbe, ce qui est perdu, c'est précisément cet acte de réflexion. Au fond, ce qui est perdu, c'est l'identité, tout simplement, de la personne. Et on ne peut pas non plus, je prends ce dernier exemple, on ne peut pas non plus en appeler à l'identité narrative chère à Ricoeur, qui suppose qu'au fond, le sujet est à lui-même, à la fois l'auteur, le narrateur, le personnage, capable de s'exprimer dans un texte qui n'est au fond que lui-même et qu'il interprète. Parce que précisément, ce qu'a perdu le malade ou le patient atteint d'Alzheimer, c'est précisément cette possibilité d'une expressivité. Et c'est cela qui est terrible dans le livre de Michel Malherbe, c'est que c'est le défaut ou la défaite du sens, la défaite au fond de toute expression. Et il revient, et je voudrais conclure là-dessus, il revient pour finir à l'analyse de Locke, dont je suis partie, s'interrogeant précisément sur l'identité de cette personne qu'il ne reconnaît plus, et qui est sa femme et qui s'appelle Annie. Et il dit la chose suivante. La première, c'est que le travail de la mémoire est évidemment indispensable pour être une personne. Et que la mémoire, au fond, signifie deux choses. Un mode de présence d'un passé révolu et un souvenir, proprement dit. Et dans les deux cas, dit-il, eh bien, la mémoire est attachée à une conscience qui est toujours au présent. D'où la question, comment acquérir la conscience d'être resté le même dans le temps et former ainsi la conscience de son identité personnelle. Si la conscience est au présent, j'ai au fond autant d'identité, autant de mémoire que de conscience. Bref, la conscience, dit-il, même accompagnée de mémoire, est au piège du présent. Et comme on ne peut pas se rapporter à une âme-substance qui permanerait dans le temps, et à la substance de laquelle je pourrais rapporter les différents moments de mon existence, au fond, nous n'avons qu'une suite de perceptions, chacune s'accompagnant de mémoire, et la mémoire permet à la conscience, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, qu'elle accompagne, de s'étendre en arrière aux pensées et aux passés, qu'elle tient donc pour sienne. Bref, Si le propre de la conscience est de se savoir elle-même, de même, elle se sait elle-même aussi loin que sa mémoire précisément s'étend. Et donc, c'est bien la mémoire, aux yeux de Michel Malherbe, qui fournit à la conscience ce train d'idées précisément, hein, qui résulte de son expérience. Et donc, il en conclut que c'est bien la mémoire et non la conscience, évidemment, enfin évidemment. C'est la mémoire et non la conscience qui manque au patient Alzheimer, et sa conscience, du coup, est une conscience impuissante qui est incapable de se saisir dans son identité, si vous voulez, concrète. Pourquoi ? Parce que c'est une conscience qui est arrêtée à l'acte présent. Hein, il y a des pages tout à fait poignantes sur la répétition compulsive, hein, à laquelle s'adonne sa femme, hein, qui témoigne selon lui précisément que sa conscience s'est défaite, qu'elle ne se sent plus évidemment comme une personne et que son corps est défait et son corps donc fait défaut. Et Michel Malherbe conclut, et je conclurai moi aussi là-dessus, au fond, en écrivant ce livre, ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'a pas voulu répéter il n'a pas seulement voulu penser spéculativement ce que Hume a appelé le labyrinthe de l'identité personnelle, hein, quand Hume a écrit le traité de la nature humaine et conclut le premier livre en disant qu'au fond il s'est égaré dans le labyrinthe de l'identité personnelle, qu'il n'est pas parvenu à donner véritablement une analyse convaincante à ses propres yeux de ce qui fait l'identité personnelle. Ce qui importe, dit Malherbe, quand on a à subir une telle épreuve, ce n'est pas tellement ce qu'on pense. Hein, la question, c'est que faire ? Et la réponse qu'il donne, c'est qu'on va là-bas. Hein, demain, je rendrai visite à Annie. On va là-bas, toujours en sceptique. Hein, donc, c'est un livre qui est un hommage, encore une fois, magnifique, hein, à sa femme, et qui témoigne donc à lui seul que, comme le disait Hésiode, Mnémosyne est la mère de toutes les muses. Je vous remercie.